Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bonjour à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, je suis avec Erwan, Damir et Benoît, que tu as pu écouter lors du dernier podcast en aparté. Et je dois t'annoncer qu'on va changer un tout petit peu le format de l'émission, puisque Radio DevOps va être maintenant publié en deux parties. La première partie, les actus, sera publiée la semaine après où on enregistre, et la deuxième partie du débat sera publiée une semaine plus tard, ce qui permettra d'avoir des épisodes plus courts et surtout d'avoir une meilleure régularité, puisque j'espère pouvoir atteindre un épisode par semaine comme ça. Bonjour à tous les trois, comment allez-vous ?
Eh ben ça va.
Ça va très bien.
Très bien aussi.
Bon, on va faire ce premier épisode à 4 en remote. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu, tout chose, parce que comme ça, on va voir comment ça se passe à 4 et si on arrive à bien pouvoir animer, surtout qu'on n'est pas à côté. Alors, justement, on va commencer par les actus. Et Erwan va nous parler de quelque chose. Il va nous parler d'une panne. Erwan, je te laisse la parole.
Oui, alors j'imagine que vous avez remarqué que le 30 août, il y avait des problèmes sur Internet de façon très, très générale. Donc si le premier réflexe est toujours d'insulter son provider préféré, le second c'est de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, de regarder sur les Twitter, sur les pages statut des différents services ou que vous n'arrivez pas à contacter ou quoi. Et de voir qu'en fait, le problème semblait vraiment généralisé. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème dans un des espèces de gros réseaux transitaires qui s'appelle CenturyLink, qui est l'ancien, qui est la boîte qui a fusionné avec Level 3 il y a 2 ou 3 ans. Ça fait partie des gros réseaux mondiaux qui fournissent des tuyaux pour faire circuler des données un peu partout dans le monde, pour tout le monde. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, donc, on imagine bien que si un réseau de cette taille-là a un petit souci, ça peut avoir des répercussions. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui s'est passé. Alors, quand on est au niveau de ces réseaux qui sont vraiment au-delà de votre FAI, de votre provider, pour se mettre d'accord sur le routage, ils utilisent un protocole qui s'appelle BGP. Et en fait, ce protocole a pour objectif de permettre à tous ces différents acteurs d'échanger les routes pour que toutes les adresses IP publiques du monde soient joignables, d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est dans la théorie, ça devrait marcher comme ça. Sauf que comme ce sont des informations qu'on s'échange, forcément, si les informations qu'on échange sont fausses, ou du moins ne sont pas du tout optimisées, ça peut avoir des répercussions assez fortes. Et surtout quand on est un gros réseau comme CenturyLink. Et c'est exactement ce qui s'est passé donc le 30 août. En gros, il y a eu une annonce de route qui a été faite qui contenait des erreurs. Et il y a eu comme CenturyLink est un réseau important, il a de l'influence et les informations sont diffusées à énormément de gens puisqu'ils ont des connexions peering avec beaucoup de gens. Du coup, il y a eu un espèce d'effet domino. Et en fait, sans rentrer dans les détails de BGP et de comment on en est arrivé là, la conséquence, c'est qu'une partie d'Internet au sens large était donc injoignable à cause des mauvaises routes transférées. Alors, on n'a pas de vrai post-mortem officiel de ce qui s'est passé, donc on ne sait pas si c'est vraiment une erreur humaine, si c'est lié à... enfin, on ne sait pas trop quelle est la source officiellement. Il y a quand même des gros acteurs du net qui ont été impactés, donc Cloudflare, en France, Canal+, par exemple, ou Scaleway, ont pas mal été impactés, et puis eux, ils ont un peu diffusé les choses qu'ils ont débuguées, et en gros, c'est vraiment ça, c'est qu'ils confirment la réception de mauvaises routes et d'informations erronées de la part donc d'un data center très précis de Centurion qui serait au Canada. Donc tout ça lié à une extension de BGP très spécifique qui s'appelle FlowSpec. Donc ça, c'est pour la culture G. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme conséquence à tout ça? C'est que donc une partie d'Internet était injoignable, mais ça a duré un peu de temps, puisque le problème, en heure française, c'était aux alentours de 12h30 que ça a commencé, en plus un dimanche, donc parfait. La fin du problème a été actée aux alentours de 17h10, heure française aussi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que suivant votre provider, suivant le peering, suivant le routage que vous prenez, bah, vous étiez plus ou moins impacté. Et ce qui peut être rigolo, c'est que, par exemple, bah, moi, je suis chez Free, et de chez Free, par exemple, je pouvais pas jouer à la PlayStation en ligne. Mais par contre, j'avais accès à tout un tas d'autres sites. Donc c'est assez intéressant de voir que visiblement la moindre petite erreur, ce genre de petite erreur peut avoir des conséquences très importantes. Historiquement, il y a eu d'autres affaires comme ça, comme pareil, une histoire de mauvaises annonces de tables de routage qui avait été faite par le réseau Tata qui a eu un impact assez fort. Et après, plus lié à mon travail, est-ce que chez Toucan Toco, on monitore toutes nos stacks de nos clients via un service qui s'appelle StatuCake. Et en fait, y a une partie du service de StatuCake qui n'était plus adressable. Et donc, du coup, on a eu je ne sais pas combien de milliers d'alertes pendant le downtime. Parce que en fait, ça faisait que flapper, parce que quand les tests étaient faits à partir de sondes qui étaient routées, bah, ça marchait bien, et quand c'était fait par des sondes qui n'étaient plus adressables, y avait un espèce de time-out, et donc du coup, c'était KO. Et donc, ma question, c'est, et vous, par exemple, Benoît, est-ce que toi, t'as été impacté par ce problème? Est-ce que tu connaissais ce genre de soucis avec BGP? Dis-nous tout.
Non, mais j'ai eu la chance de pas être impacté par ce problème pour la bonne et simple raison que j'avais déjà quitté mon job quand c'est arrivé, donc j'ai pas eu d'impact professionnel direct. Je me souviens pas, j'ai pas corrélé ça avec des problèmes en perso non plus. J'avais déjà entendu pas mal parler de ça. En fait, de ce que je comprends, c'est que je sais pas si vous voyez le truc, mais en gros, si on voit Internet comme une grande toile d'araignée. Avec les serveurs, les contenus et les utilisateurs en périphérie, plus on va vers le centre de la toile d'araignée, plus les opérateurs qui s'y trouvent sont importants. Et donc, si on est proche de la périphérie, les opérateurs sont... c'est des choses que j'ai vues il y a un moment, j'y touche plus depuis un moment, donc si... Excusez-moi si je dis des erreurs, mais de ce que je sais, c'est comme ça que ça marche. En gros, plus les opérateurs sont proches de la périphérie, plus il y a de chances qu'on les appelle des tiers 3, et plus on va vers le centre, plus c'est tiers 2, tiers 1, et en gros les tiers 1 c'est ceux qui sont connectés avec tout le monde, et sans eux, y a une grosse partie du réseau qui est par terre, quoi. Donc de ce que j'ai compris, c'est ça qui explique l'ampleur de la panne, c'est que c'était pas n'importe quel opérateur. CenturyLink Level 3, c'est un des plus gros, quoi, un des plus gros à l'échelle mondiale. Mais moi après, effectivement, j'ai pas eu à me plaindre du problème personnellement, parce que j'ai eu de la chance.
Mais je me permets de rebondir, du coup, je vais essayer d'un peu plus vulgariser, du coup, effectivement, ce que tu expliquais, ce qui est juste. Hein. Mais globalement, Internet, c'est un réseau de réseaux, donc c'est plein de petits réseaux qui sont interconnectés. Chaque bout de réseau, en fait, appartient à ce qu'on appelle un AS, donc c'est lui qui va être propriétaire de son réseau et qui va s'occuper de son réseau. Dans une de mes précédentes entreprises, on a notre propre AS. Il faut bien voir qu'être un AS, ça a quand même, c'est-à-dire qu'on va être exposé sur Internet, on a notre propre réseau, on a des IP qui nous appartiennent. Donc, globalement, pas toutes les entreprises le font, la plupart, quand vous êtes sur du cloud, par exemple, vous utilisez l'AS d'Amazon, par exemple, ou l'AS de Scaleway. Donc, vous n'êtes pas votre AS, mais la plupart, la certaines entreprises ont besoin d'avoir un AS. C'était le cas d'une de mes entreprises précédentes. Et pour communiquer entre tous ces réseaux, en fait, ces AS entre eux, il faut qu'ils sachent, qu'ils connaissent les autres AS et comment y accéder. Donc, ils vont s'échanger effectivement des tables de routage pour communiquer entre les différents AS. Donc, dire, bah, moi, l'AS là, si tu veux communiquer à celui, il y a un réseau qui est dans cet AS, donc avec ce range réseau, il faut que tu passes par là et là. Et en fait, pour communiquer ces différentes tables de routage et surtout pouvoir les update, les donner des nouvelles plages, etc., on utilise effectivement ce protocole qui est BGP, qui est un protocole réseau qui va permettre d'échanger ces tables. Encore une fois, je ne suis pas un expert réseau, j'essaie juste de vulgariser un minimum avec les termes un peu réseau pour qu'on puisse se repérer. Et en fait, effectivement, du moment où vous allez faire une faute dans cette table, bah, au final, vous allez impacter le routage central parce que c'est l'interconnexion des réseaux. Et ça m'est déjà arrivé dans une de mes précédentes entreprises, donc c'était pas moi, parce que moi je suis pas du tout expert réseau, mais on avait une de nos équipes réseau qui avait fait une fausse manip et qui avait envoyé une propagation BGP qui n'était juste pas bonne. Et effectivement, ça avait causé un incident qui est assez grave, vu qu'en fait, ça va pas vous impacter que vous. Parce que si vous dites, je vais diffuser cette table de routage qui est fausse, et que vous la diffusez à tous les autres AS, ça impacte finalement petit à petit tout l'internet, parce que c'est un protocole qui va se communiquer. Donc effectivement, c'est assez critique comme protocole, et ça fait partie, à mon sens, des choses où on aura toujours un risque minimum d'erreur. Ça, on va pas se le cacher, ça arrive pas tous les 10 minutes les incidents de ce type, mais ça arrive quand même régulièrement, peut-être une fois tous les 2 ans. Qui sont impactants. Moi, j'étais impacté. Je testais justement Scalewell le jour-là pour un projet. Donc, j'étais très content qu'il y ait ce problème à ce moment-là. Donc, oui, malheureusement, c'est assez courant. Mais à part acheter de l'automatisation et des tests, il n'y aura pas de miracle, je pense, là-dessus. Quoi. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux rajouter quelque chose.
Moi, je ne suis pas assez calé en réseau global pour estimer l'impact. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, justement, ces nœuds centraux, je ne sais pas combien ils sont, et si ce n'est pas problématique pour l'avenir qu'il y en ait si peu, et qu'un seul acteur puisse faire tomber, finalement, de manière assez conséquente, le net qu'on connaît. Je me rappelle notamment de la panne de S3 il y a quelques années, il y a un an. Et du coup, à chaque fois, c'est un acteur, dès qu'il tombe en panne, s'il est assez gros, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui sont dépendants, qui tombent. Et je trouve qu'on sort un petit peu de ce qu'était Internet au début, avec tout un tas de serveurs partout qui échangeaient. Et, bon, il y avait quand même ces grands échangeurs réseau, hein, mais là, je ne sais pas trop comment... faire pour améliorer les choses, à part en rajouter d'autres ou les redonder, je sais pas.
En l'occurrence, je pense qu'ils sont déjà redondés, c'est même le principe de base de BGP, c'est de dire il y a un chemin le plus court, ou alors un chemin privilégié par un certain nombre de politiques, et si jamais ce chemin n'est pas disponible, il y en a d'autres. C'est, normalement, le réseau est censé bien se comporter. De ce que j'ai compris là sur l'incident, en l'occurrence, le vrai problème qui fait que les gens étaient un peu coincés, c'est que effectivement le Century annonçait des routes et derrière le trafic donc était envoyé par l'AS de Century, mais du coup ne ressortait jamais de là et était perdu finalement. Mais a priori c'est un cas assez particulier et normalement les bonnes pratiques chez les opérateurs font que dans ce genre de cas, en théorie le trafic est juste rerouté d'autre part. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et par rapport à S3, ce que tu disais, c'est intéressant parce que justement, j'ai plus le sentiment, après c'est juste un ressenti, mais j'ai plus le sentiment que la centralisation et la création de SPOF, de SPOF un peu big SPOF, hein, l'idée du SPOF, on la retrouve plus justement chez les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de cloud et les fournisseurs de services que chez les opérateurs. Parce que là on en a parlé parce que c'était un très très gros incident, mais si on fait l'inventaire des incidents, ça serait intéressant de faire de la stat et de voir entre les gros fournisseurs de services et les gros fournisseurs de réseaux combien on génère de vrais problèmes globaux de chaque côté. Mais d'avis que ça penche plutôt du côté des services, mais ce serait intéressant de voir ça, quoi.
Est-ce que juste tu peux expliquer le SPOF à nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme?
SPOF, ça veut dire Single Point of Failure. C'est un terme un peu générique pour dire que dans une infrastructure ou dans un système au sens plus large, il y a un composant du système ou de l'infrastructure qui est un passage obligé, alors soit pour le trafic réseau, soit pour le fonctionnement d'une application, et que du coup si ce composant tombe en panne, l'ensemble du système tombe en panne.
Mais globalement, je me permets de rebondir dessus. C'est pas une histoire de redondance, que des AS, il y en a énormément en fait. Il y en a un très très grand nombre. J'ai pas le nombre exact, mais il y en a vraiment énormément. Le souci, c'est qu'il y a un moment où forcément, t'es obligé à un moment de donner des numéros de route, t'es obligé de donner des chemins. C'est un peu comme dans la vie, t'es obligé de mettre des panneaux sur la route. Mais si ça se trouve, quelqu'un un jour, il va y planter un panneau, il va se tromper. Ça arrive, et pour ça, on peut pas vraiment faire de choses magiques, j'ai envie de dire, à mon sens. Après, je sais pas, j'ai peut-être une info que j'ai pas là-dessus, mais il y a un moment où tu ne peux pas faire de magie, entre guillemets, et la seule magie que tu peux faire, c'est de dire, bah, c'est carré, il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui vérifient avant de propager un truc important aux autres personnes, mais tu peux pas le redonder, ou ça veut dire faire deux internets parallèles, avec vraiment, t'as deux câbles réseau chez toi, avec deux internets, t'as un internet rollback, et tout redonder comme ça, mais ça serait pas inimaginable. Et en général, il y en a quand même pas tout le temps des incidents comme ça, il y en a très peu, et en fait les seuls qu'il y a, on les voit tout de suite parce que ça a un impact. Donc faut se dire que à part ceux qu'on ressent, il y en a quasiment pas, voire pas du tout, ou des très faibles, ou c'est juste des petites choses, des broutilles entre guillemets. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus.
Ou la plupart du temps on les voit même pas, parce que le fonctionnement de base de d'internet,
oui, voilà,
est bien en place et c'est transparent pour la plupart des utilisateurs.
En parlant de magie, moi je vais vous parler de Portainer 2.0. Alors je ne sais pas si vous connaissez Portainer, mais Portainer en fait c'est un logiciel qu'on peut installer qui permet de gérer les conteneurs et tout ce qui se passe sur un serveur. Et avec Portainer 2.0, l'avènement, ça va être en fait qu'on va pouvoir mettre Portainer sur un cluster Kubernetes, et donc on va pouvoir voir tout ce qui se passe dans notre agrégat. Et là, là vraiment, ça promet. En gros, bon, je vais pas vous citer tout ce qu'il y a comme nouveauté dans Portainer 2.0, je vous laisserai aller voir les liens de la description, mais ce que va nous permettre Portainer, notamment dans un agrégat Kubernetes, c'est d'avoir une console, et une console un peu plus sexy que la console Kubernetes. Moi qui viens du monde OpenShift, à chaque fois que je passe sur Kubernetes, je suis un peu déprimé. Et donc là, on va avoir vraiment de quoi gérer notre cluster, de quoi gérer les ressources, enfin bref, tout ce qu'on peut faire en ligne de commande ou autre, on va pouvoir le faire au travers d'une interface graphique. Portainer nous font même la possibilité de ne plus rien faire en ligne de commande ou en manifest YAML. Je ne m'exprimerai pas là-dessus tout de suite, mais bon, peut-être après. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que vraiment, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont super intéressantes. Et en plus, esthétiquement, Portainer, même la version 1, était vachement bien. Je ne sais pas si vous l'aviez testé, justement, Portainer en version 1, et si vous apprêtez à tester Portainer 2 sur Kubernetes.
Alors non, pas du tout. C'est vraiment pas un projet que je suis. Comme ça, je ne vois pas trop ce que ça... À part le fait d'avoir une jolie interface, comme tu dis, mais je suis pas forcément hyper convaincu pour passer du temps là-dessus. Mais peut-être aussi parce que je suis pas le plus Kubernetes compliant de l'équipe. Mais je sais pas ce qu'en pense Damir, par exemple.
Alors moi c'est un peu, moi j'aime bien la ligne de commande entre guillemets, donc c'est vrai que pour moi avoir un outil graphique qui fait des beaux dashboards c'est bien, mais là Portainer j'avoue que je l'ai pas l'avoir testé parce que c'est pas forcément quelque chose dont je ressens le besoin tout simplement. En général j'ai ma CLI, j'ai peut-être aller K9S en local pour aller faire des trucs un peu plus de manière un peu plus agréable quand je recherche quand je suis un peu en train de chercher des choses, mais autrement non, il y aura une interface graphique dédiée spécifique, j'en ai pas spécialement besoin. Pour les logs, j'ai déjà généralement de l'ELK, et pour du coup ce qui est monitoring, du Grafana ou autre. Donc j'ai pas, ouais, pour le reste la clim va très bien, et de toute façon c'est assez anecdotique vu que tout doit être fait en CI/CD, donc voilà, à part le debug bien sûr. Je sais pas toi Benoît si tu as des use cases un peu plus spécifiques au niveau qui nécessiterait peut-être Portainer du coup.
Je connais pas du tout Portainer, enfin je connais deux noms Portainer, mais ça s'arrête là. Par contre, d'un point de vue plus général, le fait d'avoir une interface pour manager le cluster, les conteneurs, les applications qu'il y a dessus. Moi, j'y vois un use case qui s'adapte pas à toutes les entreprises, mais je l'ai déjà eu dans un précédent boulot. C'est typiquement quand tu t'es dans une entreprise où les développeurs sont censés, pour x ou y raison, avoir pas mal la main sur ce qui se passe une fois l'application déployée. Nous, on servait de rancher à l'époque. Alors rancher, il sait faire plein d'autres choses, hein, mais on servait juste de la partie web UI de rancher qui permet d'avoir une vision sur le cluster et sur ce qu'il y a dedans, pour donner un moyen simple aux développeurs pour aller troubleshooter leurs applications, parce que du coup ça leur donnait un accès à une interface en clic pour aller voir comment l'application a été déployée, est-ce que les pods tournent, dans quel état ils sont, est-ce que les services sont déployés avec les bons paramètres, etc. Donc c'était un usage un peu détourné, parce que c'est pas forcément l'usage premier de Rancher, mais du coup, pour faire le parallèle avec Portainer, je peux imaginer un use case où ça peut avoir un intérêt. Après, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du contexte, mais c'est le use case que j'y vois, quoi.
C'est exactement le use case auquel je pense, parce que je travaille parfois avec des développeurs qui, eux, ne sont pas adeptes de la ligne de commande. Et pour le coup, ils ont besoin d'aller voir ce qui se passe et d'observer. Et le deuxième use case que je vois, c'est quand on est en phase de développement d'une application ou d'un ensemble de microservices qu'on va packager, ça peut être intéressant d'aller modifier directement le code au travers une interface, qu'elle soit graphique ou en ligne de commande, mais du coup, quand elle est graphique sur un staging ou un environnement de développement, c'est vachement pratique. Et après, on peut récupérer le YAML, le tuner et le mettre à notre sauce, ce qui permet de faire du CI/CD derrière. Parce que moi, je suis hyper hypé par ça, parce que j'adore les consoles, et j'en cherchais une pour Cube. Et du coup, je vais l'installer, je vais tester. Mais par contre, je ne me passerai jamais du déploiement au travers des lignes de commande, ça c'est sûr. Mais pour des environnements de développement purs et durs, c'est super intéressant. Et puis même pour aller voir la prod, parce qu'il y a l'aspect monitoring, l'aspect, en effet, centralisation des logs qui vient tout d'un coup et qui permet de voir où est-ce que sont les pods, sur quel nœud, etc. Et en fonction de la typologie de notre agrégat, comment est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il y a plusieurs types de nœuds, ça peut être intéressant aussi, surtout si on joue avec les affinités ou ce genre de choses. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, chaque use case est différent. Mais pour moi, c'est, enfin, la console de Kubernetes, je la trouve vraiment austère. Si vous n'avez jamais essayé la console d'OpenShift, essayez-la un jour, vous verrez, c'est super bien. On peut aller voir les événements et tout, qu'on peut aller voir en ligne de commande, bien sûr. Mais quand on est plusieurs dans l'équipe et quand il y a des développeurs qui, en effet, ne vont pas triturer dans la ligne de commande, c'est quand même hyper pratique.
Je vais juste un peu challenger cette vision, ce que m'intéresse. Moi, en tout cas, ma vision des choses, c'est pas tout faire en ligne de commande. Moi, je fais beaucoup en ligne de commande. Et parce que je suis habitué, bah, la plupart du temps, quand je travaille sur de l'AWS et tout, bah, faire des choses en graphique, c'est juste interdit. Bon, on interdit direct, c'est la première chose qu'on fait. Du coup, ma vraie question là-dessus, c'est qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un Grafana ou qu'un Prometheus ou un ELK, dans la mesure où moi, en tout cas, ben, c'est une vision personnelle des choses, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais ce que j'aime bien faire, c'est habituer les devs aux outils qu'il y a en prod. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, nos travaux sont de plus en plus liés, et un jour, si on a un gros incident, ben, c'est probablement un truc un peu complexe à débugger, et possiblement, je vais peut-être demander à un dev de venir en support avec moi, pour dire bah écoute, là je sais pas trop ton applicatif comment il se comporte, est-ce que tu peux regarder. Donc au final j'essaie de l'habituer au maximum à ces métriques et à ces outils entre guillemets, je vais pas dire de barbu, mais ces outils standardisés prod, pour du coup qu'il soit plus à l'aise avec et qu'il y prenne. Et justement, s'il a une information qu'il a pas, il me dit ben moi je comprends pas, j'aurais besoin de cette information en fait pour voir si mon truc il tourne, bah sur son dashboard Grafana, je dis bah attends, viens, on va le regarder, tac, Prometheus, on rajoute la valeur. Donc Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus par rapport à ça, du coup, pour les devs?
Moi, j'y vois un élément. Je comprends ce que tu veux dire et je suis d'accord sur le fond. Du coup, c'est marrant, ça me remémore aussi comment les choses sont déroulées dans ce taf-là. Une des raisons aussi, c'était l'accès au cluster. C'est-à-dire que si tu veux que les développeurs fassent tout en ligne de commande, du coup, il faut qu'ils aient des configs ou des credentials qui leur donnent accès au cluster. Voilà, après, tu peux restreindre les droits, etc. Mais tu dois distribuer à un moment donné des credentials sous une forme ou une autre. Ce qu'on trouvait intéressant avec Rancher, c'est que tu pouvais du coup leur donner accès juste à une interface web avec un login mot de passe. Donc après, tu rajoutes un peu la sécurité que tu veux autour de ça. Et si c'est juste pour du troubleshooting, du coup, ça suffisait. Ils avaient juste besoin de voir l'état des choses, l'état des services. Et pour moi, c'était plus complémentaire au monitoring. Tu vois, bien sûr, à côté de ça, t'as tes métriques, t'as tes logs. Mais typiquement, tes logs vont te donner des événements et tu vas pas forcément te rendre compte d'une manière visuelle que « Ah bah en fait, je me rends compte, tiens, c'est marrant, j'ai un tiers de mes potes qui sont en failed, par exemple. » Alors si tu sur Grafana, effectivement, tu vas l'avoir. Mais là, c'est une vue très simplifiée où du coup, t'as un peu cette vision en un coup d'œil. Et après, la démarche, c'était de dire, une fois que tu as cette première vision qui te donne un premier indicateur, tu vas sur Grafana parce que du coup, là, t'as le détail des métriques et t'as le détail de ce qui s'est passé et tu vas dans les logs aussi. Voilà, c'est un truc en plusieurs étapes. Après, ça, moi, je trouve ça très très subjectif, tu vois, en fonction de qui utilise qui va aller troubleshooter l'application. Il va y avoir des goûts et des manières différentes de faire. Mais...
Ouais, non, mais du coup, je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que quand je dis Grafana, c'est pareil, t'as un dashboard général avec le nombre de pods running en erreur, etc. Après, t'as des agents par application où t'as bien sûr les métriques du Kubernetes, du pod, du namespace, etc. Mais aussi les métriques de l'application elle-même avec le nombre de fils dans la queue, par exemple, les latences, etc. Donc, non, mais je demandais plus que pour comprendre, mais finalement, je comprends mieux. Mais dans mon sens, sinon, on utilise la CD, donc j'évite de donner quand même des credentials à tout le monde, quoi. J'essaye de faire passer au maximum par la CD, quoi. Mais je comprends.
Moi, pour apporter ma dernière pierre à l'édifice de la discussion, je rejoins vachement Damir, c'est que pour moi, tout doit passer par la CI/CD d'une façon ou d'une autre, ça évite tout un tas de choses. Et du coup, après, de façon très générique, nous, on est pas mal sur la stack ELK, et de ce que je comprends, ça, si on a ce genre de stack bien set avec les logs qui remontent, avec les tags qui vont bien pour pouvoir se retrouver ces différents conteneurs, ces machins, j'ai pas l'impression que ça soit un vrai game changer de passer à porte-neur. Mais bon.
Alors en fait, moi je vais tester, je vous dirai, mais il faut bien se dire aussi que tout le monde n'est pas sur Prometheus, Grafana et ELK. Bah, ça dépend aussi des besoins. Et donc, je me dis...
Et comment c'est possible ?
Parce que, genre, t'as pas envie d'avoir un ELK qui consomme je ne sais combien, par exemple, ou que tu veux, par exemple, utiliser Loki pour tout envoyer dans Prometheus et donc pas avoir de ELK, ou que t'as envie d'installer un truc qui fait tout, par exemple, Portainer. Faut tester hein, avant de dire ça. Mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est quels sont les besoins et comment est-ce qu'on peut y aller. Après, si vous allez jamais dans la console Kubernetes, c'est sûr que le besoin pour vous, il n'existe pas. Mais moi, j'y vais régulièrement, y compris avec mes développeurs. Donc, pour le coup, là, le besoin, il y est. On va parler d'un autre sujet. Et Damir, tu vas nous parler d'une cyberattaque.
Alors oui, je vais vous parler d'un petit truc qui est arrivé il y a quand même maintenant quelques temps, il y a quasiment un mois. Mais ça me semble intéressant de remonter un peu dessus à froid et par l'actualité récente, dont je vais revenir sur la fin. Du coup, Garmin, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un service globalement qui fait pas mal de choses. Il fait des objets connectés un peu sportifs, il fait beaucoup de cartographie notamment. Et du coup, pour tous ces services, il a une grosse partie informatique pour synchroniser des objets connectés et tout ce qui est cartographie, notamment dans les avions. Donc autant dire que c'est quelque chose qui est assez important parce que la cartographie dans l'aviation, c'est important. C'est la base de beaucoup de choses. Et les objets connectés pour sportifs, il y a quand même beaucoup de gens qui les utilisent. Donc c'est mieux quand ça marche, surtout quand on est une marque assez connue. Et j'ai pu noter la date, mais il y a un peu plus d'un mois, ils ont subi une cyberattaque, et pas n'importe quel type de cyberattaque, ils ont été victimes d'un CryptoLocker. Quel est le principe ? Globalement, vous allez avoir cette sorte, on va dire, de logiciel malveillant qui va venir sur votre réseau, et qui, à la place de vous voler des données ou autre, il va réfléchir autrement, et il va dire « moi je chiffre toutes vos données », donc il va chiffrer toutes vos bases de données, vos sauvegardes, etc., il va mettre un mot de passe, bien sûr, qu'il ne vous donne pas, sinon c'est pas marrant. Et il va vous dire, moi j'ai chiffré vos données, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, mais là, globalement, vous ne pouvez plus utiliser, donc vous êtes un peu bloqué. Et ils vont vous réclamer de l'argent, en fait. C'est un ransomware, il va vous demander de l'argent et il va vous dire, bah, pour telle somme, on vous donne la clé déchiffrement, vous la rentrez, votre infra est déchiffrée, vos données sont déchiffrées et vous repartez comme en 40, comme dit l'expression. Là où c'est assez, où c'est assez intéressant, c'est que c'est un type d'attaque qui est de plus en plus courante, en fait, depuis quelques années et qui s'attaque de plus en plus à des acteurs assez gros. Là, du coup, c'est un acteur qui est assez, assez conséquent. Donc, très rapidement, on a eu un impact très très important qui s'est propagé, que ce soit dans les compagnies aériennes ou autres, sur les différents services qui étaient impactés, parce que la plupart de leurs services étaient hors ligne, ils n'avaient plus de données, donc ils n'avaient plus les données. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les pertes, elles ont explosé. Pendant plus de 6 jours, l'activité est quasiment à l'arrêt, et ils vont arriver à accumuler une perte qui a atteint quasiment, qui était estimée à plus ou moins 3,5 milliards de dollars pour eux et leurs clients. Donc, on arrive quand même à une somme qui est assez gigantesque, hein, on va pas se le cacher. Et entre-temps, en fait, les rançonneurs, du coup, qui utilisaient qui étaient rattachés à un groupuscule apparemment qui se fait appeler Evil Corp, je pense qu'ils ont beaucoup aimé Mr. Robot, qui est une très bonne série que je vous conseille au passage. Mais du coup, eux, en parallèle, ils ont réclamé, en fait, du coup, une somme pour déchiffrer les données, une somme de 10 millions de dollars. La règle veut, et les conseils de beaucoup de personnes en cybersécurité veulent dire que il faut pas payer parce que de un, ça leur donne les moyens et ça les incite à continuer. Et de deux, bah, c'est pas forcément une solution parce que ça se trouve, il va pas vous donner la bonne clé, il a peut-être même pas la clé. En fait, tout simplement, si ça se trouve, c'est peut-être du bluff, le mec, il a chiffré, mais il a jamais récupéré la clé. Donc du coup, il y a quand même un gros, on va dire, drapeau noir pour dire ne payez pas les rançons parce que ça va juste aggraver le problème. Mais au vu des pertes, en fait, bah, il s'avère qu'ils ont payé du coup les 10 millions visiblement et ils ont pu faire repartir leurs différents services petit à petit. Donc là, on arrive à un problème, c'est que bah, ça va encourager ce type de comportement à perdurer, à continuer, il va y en avoir de plus en plus. Et là où c'est assez fou, c'est qu'on a appris, bah là j'ai appris quelques minutes avant le podcast, comme quoi l'actualité se prépare même pour le podcast, et ça c'est merveilleux, ou peut-être moins vu l'actualité, que Equinix a déclaré avoir subi lui-même une attaque du coup qui serait apparemment du cryptolocage. Donc du coup, on aurait chiffré les données des données qui appartiennent à la société Equinix, qui est pour rappel une grosse société qui gère beaucoup d'interconnexions réseau et qui est un AS d'ailleurs, pour revenir au premier sujet, comme quoi tout est lié. Et beaucoup de données du coup clients, beaucoup de données à eux, qui gèrent beaucoup de data centers, notamment en France. Et du coup, bah, ils ont été aussi victimes, on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos, ils ont juste déclaré ça publiquement. Maintenant, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'ils vont payer, est-ce qu'ils vont pas donner, est-ce qu'ils vont pas payer. C'est une grosse question. Et du coup, je vais te passer la parole. Christophe, toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce que déjà, qu'est-ce que tu ferais pour éviter ce genre de situation à tes clients? C'est une bonne question, ça.
Nous, déjà, ce qu'on fait, on met en place plusieurs sauvegardes, y compris en dehors du réseau. C'est la première chose qu'on fait, c'est on a des sauvegardes dans le réseau, en live sur les serveurs, puis des sauvegardes en dehors du réseau. Et si on n'arrive pas à recharger les données de nos clients, on est mal. Je t'avoue que ça n'est jamais arrivé. Je touche du bois, hein, mais ça n'est jamais arrivé. Et qu'est-ce que je ferais? Je ne payerais pas, quitte à mettre la clé sous la porte, parce qu'en effet, comme tu le dis, payer, c'est encourager ce genre de choses. Et ça les inciterait à aller voir des entreprises encore plus grosses, voire, pire, des États. Et là, on serait mal, je pense. S'ils commencent à s'attaquer à nos États, nos ministères et ce genre de choses, ce serait vraiment problématique. Donc, les sauvegardes décentralisées, chiffrées, avec tout ce qu'on veut, c'est, à mon avis, la seule réponse qu'on peut avoir. Et toi, Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Parce que vu que vous devez gérer pas mal de données, je pense, chez Toucan.toco, qu'est-ce que vous feriez et qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour éviter ça?
Non, effectivement, j'imagine que c'est partout pareil, mais rappelons-le, pour chaque stack client, il y a une clé GPG différente qui est utilisée pour chiffrer les backups qui sont exportés dans des data centers différents de là où se trouve le cœur de notre métier, et qui ne sont même pas chez le même hébergeur, etc., avec des accès hyper restreints et tout. Donc, enfin, moi, j'imagine que Garmin a probablement des trucs comme ça, hein, mais Là où je suis hyper surpris de la news, c'est que comment on sait tout ça? Ça me paraît hyper tendu de communiquer sur le fait que, enfin, tu vois, si les mecs, on sait qu'ils ont payé, mais la terre entière va les cibler après, quoi. Enfin, je trouve ça fou.
Bah, c'est un gros risque qui a été mis en avant, parce que globalement, bon, les infos elles viennent un peu de à gauche et à droite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués, y compris des gouvernements, parce que ça a impacté beaucoup de choses. C'est une des grosses craintes, en fait, c'est qu'il y ait du coup une nouvelle cyberattaque qui les vise, surtout que globalement, d'après ce que j'ai compris des articles, des différents articles qu'il y a eu sur le sujet, ils n'auraient pas fait grand-chose, en fait, pour combler le truc. Ils ont juste comblé la faille, entre guillemets, mais ils n'ont pas remis en question tout le système. Parce que c'est vrai qu'on dit des sauvegardes, mais il ne faut pas oublier quand on fait des sauvegardes, s'il faut les faire hors réseau, etc., c'est pas forcément des sauvegardes fraîches, donc on aura des paires de données. Et surtout, ça implique qu'il faut les tester. Parce que souvent, on pense à faire des sauvegardes, on se dit, je fais mon MySQL dump, t'inquiète, ça passe. Si on n'a jamais essayé de le réinjecter, peu de chances que ça marche, on va pas se le cacher. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce problème-là aussi qui se présente. Mais autrement, oui, les infos viennent un peu à gauche et à droite. Et toi, du coup, Benoît, est-ce que tu as déjà été confronté à ça et, est-ce que tu as des idées magiques, on va dire, pour y lutter contre ?
Bien heureusement, j'ai jamais été confronté à ça. Et c'est un sujet qui est super compliqué, parce que j'aimais bien au début quand tu disais oui, on dit souvent il faut pas payer, et je suis bien d'accord, et c'est effectivement les premiers types de bonnes pratiques qui viennent à l'esprit, c'est de se dire on va payer, parce que de toute façon ça sert à rien de te garantit qu'ils vont pas juste recommencer derrière pour te redemander 10 millions et voilà. Enfin, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est pas bon. Mais en même temps, j'arrive pas à imaginer comment ça se passe. T'es dans ton entreprise, ça, il y a ça qui arrive. On te dit, on est en train de perdre 3,5 milliards. Je pense qu'il y a une espèce d'effet panique qui prend à la gorge à peu près tous les étages de l'entreprise. Et c'est vraiment vraiment super compliqué, quoi. C'est bon, les bonnes pratiques c'est bien, mais une fois quand t'es dans le bouillon, tu te rends compte qu'elles tombent les unes après les autres. Enfin, j'imagine en tout cas à cette échelle-là que ça doit arriver. Et du coup, j'envie pas du tout les gens qu'on subit ça. Et je suis hyper solidaire de l'équipe d'infra qui est là-bas, parce que ça a pas dû être facile. Et l'équipe de sécu aussi.
J'en profite pour ajouter juste une info pour ces histoires d'attaques de grande ampleur avec des retours d'expérience assez détaillés qui parlent aussi bien de la technique que de la gestion humaine et de la gestion de crise. Il y a le retour d'expérience sur la grosse attaque que TV5 Monde avait subi où ils avaient eu un écran noir, etc. Enfin, c'est assez sérieux. Et de façon très transparente, ils ont fait un Rex qui est vraiment top, qui est en vidéo. Je pense c'est toujours intéressant à lire, et comme c'est vraiment de très grande ampleur avec là pour le coup une crise assez ouf et que tout est transparent sur ce qu'ils ont fait, comment ils ont capté le truc, comment ils ont résolu le truc, ça peut aussi donner des infos sur ce genre de cas qui sont extrêmes et que j'espère ne pas connaître.
C'est vrai que les Rex là c'est souvent très enrichissant, faut pas hésiter à les lire, vous apprendrez forcément quelque chose sur les bonnes pratiques ou les choses à faire ou ne pas faire, c'est tout aussi important.
Ouais, si Erwan tu trouves le lien, je le mettrai dans la description de l'épisode. Et enfin, on va aborder la dernière actu du jour, puisque Benoît nous a préparé aussi une petite actu. Et Benoît, c'est ton baptême du feu, tu vas nous parler d'une sortie. Et quand j'ai vu la sortie, je me suis dit, ah, je suis interpellé, j'aime beaucoup.
Oui, effectivement. Alors, c'est une news qui commence déjà un peu à dater, puisque ça date du 10 août, il me semble. Mais tout simplement, alors c'est la sortie de Tekton Hub. Donc, pour rappel, pour ceux qui... n'en ont pas entendu parler, Tekton, c'est une solution de CI/CD basée sur Kubernetes. Donc c'est complètement dépendant de Kubernetes, parce que ça s'appuie sur les mécanismes Kubernetes et le type de service qu'on peut trouver dedans. Donc là, c'est une techno qui est backée par Google, il me semble, c'est open source, mais c'est Google qui l'a lancée. Donc Tekton en soi, je trouve ça très intéressant, et Tekton Hub, du coup, c'est Bah, comme son nom l'indique, c'est un petit peu comme Docker a son hub pour partager des images de conteneurs, Ansible a son Galaxy pour partager des recettes, enfin des rôles Ansible. Enfin, il y en a plein des exemples comme ça, et donc le principe est le même. Là, sur Tekton Hub, l'idée c'est qu'on peut partager donc ce qu'ils appellent dans Tekton des tasks. Et donc des tasks, ça va être bah, des routines qu'on va vouloir implémenter dans nos pipelines de CI/CD et qu'on veut pouvoir réutiliser et rendre modulaire. Donc l'idée est super intéressante et clairement ce type de plateforme pour partager c'est très souvent très intéressant pour ce type de solution parce que ça me permet de pas réinventer la roue à chaque fois, ça me permet de partager et d'itérer sur ce que les gens ont déjà conçu. Et de s'inspirer aussi. Donc ça, dans l'idée, je trouve ça très bien. Par contre, la question du coup qui m'est venue, moi j'ai clairement pas encore d'avis tranché là-dessus, mais la question qui m'est venue en voyant ça, c'est je me dis, mais au final, donc si on part là-dessus, imaginons dans une entreprise, on a Tekton comme solution de CI/CD, on met en place Tekton Hub, on va devenir de plus en plus dépendant de la solution, parce qu'une fois qu'on commence à utiliser des rôles liés à la des tasks liés à la techno, on va difficilement vouloir en revenir. Et j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, mais est-ce que ma CI/CD sur Kubernetes, est-ce qu'au final, je veux que ce soit la base de mes déploiements, dans le sens où je suis très convaincu par Kubernetes pour plein de use cases, mais est-ce que réellement Kubernetes doit aller au-delà de gérer l'application, gérer l'état de l'application et de l'application qu'on veut déployer pour l'entreprise, j'entends. Est-ce qu'à mettre ces services d'infra et ces services critiques d'infra sur Kubernetes, c'est intéressant. Je pense notamment, alors, pour essayer d'expliquer mon propos. Typiquement, quand on fait du build dans une CI, très souvent, on a besoin d'avoir au moins une machine virtuelle pour le faire, typiquement pour builder des conteneurs. Et donc, je me dis, dans Kubernetes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut avoir des machines virtuelles dans Kubernetes? Je sais qu'il y a des projets qui tentent d'implémenter ce genre de choses, mais où ça en est? Quel est l'état de maturité, etc. Enfin, voilà, c'est une question très ouverte. J'ai pas de réponse fermée à ça. Moi, je me suis posé à moi-même cette question et je sais pas vraiment y répondre. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Damir, par exemple.
Du coup, j'ai pas entendu parler déjà de ce projet, donc qui peut être intéressant. Après, moi, c'est vrai que niveau CI, j'aime bien avoir quelque chose qui est un peu plus agnostique entre guillemets, parce que je fais peu de cubes au final. Moi, j'ai pas du tout mon workload qui est sur Kubernetes. Donc, clairement, je suis pas fan de reposer un truc ce qui est centrique là-dessus. Après, l'idée d'avoir des repos communs, des choses comme ça, ça me semble plutôt pas mal. Chez GitLab. Partage certains, il y a un repo, il me semble, sur GitHub, ou sur GitLab, du coup, .com, ça serait très troll de le mettre sur GitHub, qui, justement, détient pas mal de templates pour déployer une node, des choses comme ça. Donc, ça peut vraiment être une approche intéressante. Après, pour la question d'être dépendant d'une plateforme, j'ai envie de dire, c'est une question qui se pose aujourd'hui pour tout, on va pas se le cacher. Le moins de langage qu'on choisit, si on choisit, si le langage demain il se fait racheter par une boîte qui fait de la merde ou autre chose, on s'est fait avoir. Moi, je travaille beaucoup sur de l'AWS et je travaille un peu sur du Scaleway. Quand on va chez un cloud provider, le jour où tu veux le quitter, il va falloir recoder une bonne partie de ton infra, il va falloir repenser beaucoup de choses. Parce que chacun a sa manière de faire, chacun ses conceptions. Donc oui, aujourd'hui, quand on choisit une techno, faut essayer de prendre un truc sur lequel on se dit pas dans deux semaines je vais partir sur autre chose. Donc oui, c'est quelque chose à prendre en compte, clairement, il faut y penser. Hein, c'est toujours pareil. Après, je sais pas si je vais le tester honnêtement, parce que c'est vrai qu'en CI, moi je fais beaucoup de GitLab et je connais très peu, mais je connais un peu Jenkins. Et j'ai jamais vraiment fait d'autres choses. Et pour l'instant, j'ai d'autres priorités que me rajouter un système de CI, même si pour l'instant GitLab me plaît me convient tout à fait dans mes besoins. Toi du coup, Erwan, je sais pas si t'as. Si tu as un avis dessus, si tu l'as déjà testé même, soyons fous.
Non, j'ai pas testé. Je trouve ça cool, mais je rejoins la crainte de ce côté très, très technocentrique à terme. Et je comprends tout à fait l'angoisse que ça peut générer. Et je sais que donc chez Toucan où je suis, on repose sur du Jenkins. mais au final, on l'utilise de façon vraiment très agnostique, c'est-à-dire que Jenkins, ça, c'est, il automatise juste ce que moi je ferais si je devais build les projets pour Toucan ou les pusher, etc. C'est juste qu'il a déjà un environnement qui est fait pour, qui sait lancer les conteneurs comme il faut, etc. Mais concrètement, ce qu'il fait, c'est lancer des... Enfin, j'exagère vachement, mais c'est lancer des goals des makefiles de nos projets, et c'est des goals qui sont que n'importe quel utilisateur pourrait faire s'il a les credentials, etc., qui vont bien. Donc, l'idée d'avoir utilisé ça, c'était justement pour être le plus agnostique et ne pas être fermé. Si demain on veut plus de Jenkins et qu'on veut passer sur GitLab, bah, c'est pas grave, on aura juste à dropper nos Jenkins files, on s'adapte à GitLab et puis ça devrait rouler. Donc c'est vrai que je comprends la crainte qu'il peut y avoir à trop s'engager dans une route où le jour où il faudra faire demi-tour, on va faire ah c'est relou, j'ai la flemme et du coup ne pas bouger quoi.
Alors, je sais pas, je pense que vous vous en rappelez pas, mais quand on a lancé le podcast, on a parlé de la CD Foundation, donc la Continuous Delivery Foundation, et Tecton faisait partie des projets qui étaient hébergés par la Continuous Delivery Foundation, au même titre que Jenkins et Jenkins X d'ailleurs. Donc, je vous mettrai le lien de l'épisode de podcast. Alors, moi, ça vous étonnera pas, hein, moi, ma CI, c'est GitLab, GitLab CI, hein, j'en utilise pas d'autres a priori maintenant. Je vais pas aller tester Tecton CI. Par contre, la CD, il faut que je regarde parce que je m'intéresse de plus en plus au GitOps en mode pool. Du coup, à l'intérieur du cluster Kubernetes, c'est lui qui va aller chercher les informations et qui va les tirer, plutôt que ce soit la CI qui va pousser les infos dans l'agrégat, ce qui nous permet justement d'éviter de déposer des secrets en fait dans notre CI. Donc, faut que je regarde si Tecton le fait, parce que là, pour l'instant, je suis plutôt orienté Argo CD, qui m'a l'air d'être hyper prometteur pour le coup là-dessus. Et faut comparer les deux. Je pense que avec mon futur stagiaire qui va arriver, on va regarder, on va tester. Si on a le temps, on testera Tecton. Mais pour le coup, je sais pas. Ça fait pas partie des projets qui me hype plus que ça. Après, le côté hub, je trouve ça intéressant. Justement, dans le point de vue de la Continuous Delivery Foundation, qui permet justement d'aider les gens à aller vers d'aller vers le Continuous Integration et le Continuous Delivery. Donc, de proposer des solutions un peu plus packagées pour faciliter la pénétration. Parce que faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui n'utilisent même pas d'intégration continue. Donc, si ça peut les aider, pourquoi pas? J'ai envie de dire, et même tant mieux. Bien, je crois que nous avons atteint la fin de l'émission, qui est déjà pas mal avancée quand même. Donc, je vais vous laisser un petit mot de la fin. Moi, je vais, et puis je reprendrai la parole juste après pour clôturer. Donc, Benoît, je t'en prie, je te laisse la primeur.
Ouais, beau baptême du feu, du coup. Là. Non, bah, en tout cas, moi, je trouve ça super intéressant. Là. Merci beaucoup de m'avoir reçu pour le podcast déjà, parce que j'en avais jamais fait, je vais pas vous mentir, et c'était super intéressant. Enfin, les débats étaient super intéressants et j'aimerais bien recommencer si vous m'acceptez la prochaine fois. Donc, on en rediscutera.
Ouais, bah du coup, merci à tous. Ouais, non, le nouveau format était cool, ça me permet d'un peu plus poser nos points de vue et d'en discuter sur différents sujets. C'était intéressant. Et bon, juste un petit mot de la fin. On dit chiffré et pas crypté, hein, déjà. Voilà. Vu que c'est d'adéquation avec mon actualité. Et sur ce, bah, moi, je vous souhaite à une prochaine.
Ouais, très cool. C'était pas mal à 4. On a bien tenu. Le nouveau format me paraît pas mal, donc c'est cool. Et puis, comme dernier mot, je dirais chaise.
Et moi, je vous dis, en tout cas, si vous ne connaissez pas la communauté des compagnons du DevOps, bah, rejoignez-nous, puisqu'on est tous les quatre dans la communauté. Inscrivez-vous dans le lien en commentaire et on pourra discuter entre les deux épisodes. Et moi, je vous dis à très bientôt.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.